Merci de votre écoute. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, des négociations en cours entre Américains et Ukrainiens à Genève, Sergueï Lavrov estime que la Russie n'a aucune chance pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Au Soudan, le nombre de victimes de la guerre a triplé en 2025, 11 300 morts recensés par l'ONU, alors que se poursuit le conflit entre l'armée et les forces paramilitaires. Notre dossier du jour, les évasions massives du camp d'Al-Hol en Syrie. Des milliers de femmes et d'enfants se sont enfuis du plus grand camp pour proches de Daesh du pays. Au cœur de cette faille sécuritaire, le conflit entre les autorités gouvernementales et les forces kurdes. Et puis nous verrons avec Fabrice Balanche le danger que peuvent représenter pour la France les djihadistes étrangers. Bonjour à tous. Aucun Français parmi les évadés du camp d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie. C'est le ministère des Affaires étrangères français qui le confirme. Cette déclaration fait suite à l'annonce par les autorités syriennes d'évasion massive dans ce centre où se trouvaient des proches de djihadistes de Daesh. À Genève, le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, participe aux discussions indirectes entre l'Iran et les États-Unis. C'est ce qu'affirme une source proche des négociations et la télévision iranienne. Raphaël Grossi y prend le rôle d'observateur technique censé apporter plus de précision aux échanges. Ses pourparlers sous médiation omanaise sont centrés sur la question nucléaire, selon Téhéran. La Russie affirme n'avoir aucune échéance pour mettre fin à la guerre en Ukraine, selon le ministre Sergueï Lavrov et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ces déclarations interviennent alors que les émissaires des émissaires ukrainiens et russes rencontrent séparément à Genève des représentants américains pour préparer de possibles discussions trilatérales. Moscou estime qu'un sommet Poutine-Zelensky ne pourrait avoir lieu qu'une fois les négociations terminées, tandis que Kiev juge cette rencontre nécessaire pour avancer. Au Soudan, un avion humanitaire de l'ONU a atterri ce jeudi à l'aéroport de Khartoum, une première depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023 entre l'armée et les paramilitaires. Toujours au Soudan, l'ONU affirme que le nombre de civils tués a triplé en 2025 dans une guerre qui dure depuis près de 3 ans. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, évoque environ 11 300 morts recensés sans compter les disparus et les corps non identifiés. Il met en cause les paramilitaires, l'armée et leurs parrains étrangers dans cette hausse des violences. En 2025, l'OIM recense au moins 7 667 morts ou disparus sur les routes migratoires, un chiffre en baisse de 16,7% sur un an, mais jugé sous-estimé. Les routes maritimes restent les plus meurtrières, plus de 2100 morts ou disparus en Méditerranée et plus de 1000 sur la route atlantique vers les Canaries. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 25 personnes ont été tuées dans 2 attaques attribuées à Boko Haram dans l'état d'Adamawa. Le gouverneur de l'état a condamné ces violences dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes dans le pays. En Algérie, des médias ont salué ce jeudi la portée historique de la visite du pape Léon XIV prévue du 13 au 15 avril. Le quotidien Al-Watan parle d'une forte dimension symbolique. L'Algérie étant un pays où la mémoire chrétienne ancienne coexiste avec la réalité musulmane d'aujourd'hui. Et puis enfin en France, Madhieh Esfandiari, une Iranienne accusée d'avoir diffusé en ligne des messages faisant l'apologie du terrorisme, a été condamnée ce jeudi à 1 an de prison ferme et à une interdiction définitive du territoire. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. À Damas, le ministère syrien de l'Intérieur confirme des évasions massives de proches de djihadistes du groupe État islamique depuis le camp d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie. Selon le porte-parole du ministère, Nouruddin Al-Baba, les forces de sécurité syriennes ont découvert à leur arrivée des cas d'évasion collective liés à une ouverture du camp de façon aléatoire dans un contexte contexte de chaos. Les précisions avec vous, Marc-Aurèle Alvarez.
Oui, le camp d'Al-Hol, présenté comme le plus grand camp de proches de djihadistes de Daesh dans la région, était jusque-là contrôlé par les forces démocratiques syriennes, les FDS, dominées par les Kurdes. Elles s'en sont retirées le 20 janvier dernier et les forces syriennes ont pris le contrôle du site quelques heures plus tard. Damas affirme que ces retraits se sont faits sans coordination et sans avertissement préalable. Le ministère syrien de l'Intérieur évoque plus de 138 ouvertures dans le mur d'enceinte, qui est un long de 17 km, ce qui aurait, selon eux, facilité des évasions à travers des réseaux. Des milliers de femmes et d'enfants se seraient ainsi enfuis vers une destination inconnue. Les FDS, eux, contestent cette version. Ils affirment que leur retrait est lié à une attaque militaire visant le camp et ils accusent même les forces affiliées à Damas d'avoir participé à des sorties clandestines. Selon Damas, le camp abritait 23 500 personnes, alors majoritairement des Syriens, des Irakiens, mais aussi quelques 6 500 étrangers. Les familles restantes ont été évacuées la semaine dernière vers un autre site du nord de la Syrie. Et sur le volet des prisons de djihadistes, l'armée américaine indique avoir achevé le transfert de plus de 5 700 détenus de la Syrie vers l'Irak.
Merci Marc-Aurèle Barès. Et dans ce dossier toujours, nous vous le disions, des milliers de proches de djihadistes de l'organisation Daesh ont fui le camp d'Al-Hol. Quelles conséquences sécuritaires, notamment pour la France? C'est l'une des questions posées au professeur d'université spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche.
Oui, ça représente une menace parce que ces personnes ne se sont pas déradicalisées dans ce camp, bien au contraire. C'était un mini État islamique qui s'était constitué. Vous aviez des assassinats de personnes justement qui voulaient quitter l'État islamique et donc qui se faisaient assassiner par les autres. Vous avez des enfants qui entre-temps sont devenus adolescents, voire de jeunes adultes. Les lionceaux de Daesh aujourd'hui sont devenus de véritables lions, de véritables bombes à retardement qui ont été élevés donc dans cet esprit djihadiste et qui pourraient évidemment avoir envie de commettre des attentats une fois rentrés au bercail.
Et aujourd'hui, quelle peut être la réaction, notamment de la France, suite à ces évasions massives?
Alors la France, on avait un petit peu pris les devants parce que en septembre 2025, donc Bruno Retailleau était encore ministre de l'Intérieur et il a fait transférer en Irak la moitié des combattants français qui se trouvaient dans les prisons dans le nord-est syrien, sentant sans doute que la situation n'était pas sûre pour l'avenir. Il devait transférer les 50 autres, puis bon, ils ont été pris de court évidemment par les événements. En ce qui concerne donc les familles, on en a rapatrié au fil des ans, mais bon, il en restait 200-300 personnes qui évidemment vont nous poser un problème sécuritaire. Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères ne donne pas trop d'informations sur leur sort.
Et ce qui est qualifié d'évasion, est-ce que cela peut marquer un tournant dans les relations aujourd'hui entre l'Union européenne et la Syrie, et notamment entre Paris et Damas? Et
oui, ça marque quand même une petite inflexion parce qu'on se rend compte que le régime de Damas n'est pas aussi sûr qu'on le pensait. Les Américains pensaient naïvement que Ahmad al-Shara allait pouvoir s'occuper des prisonniers de l'État islamique. Il a tout de même rejoint la coalition anti-État islamique. Mais en fait, comme je l'avais pu le dire sur d'autres antennes, c'était uniquement pour que les Américains se désolidarisent des Kurdes, soutiennent Shara et lui permettent de reprendre le contrôle du nord-est, parce qu'il n'a aucune intention de se battre vraiment contre l'État islamique.
Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.